treasure, my little stranger, 'cause I feel you and you feel me. Give me the wave, my little DJ, 'cause you and me are on the way. In EAGJET FM, pour qui je suis honnête, écoute la barre, j'ai la fortune russe.
Barjerus 1032, infrastructure du surhomme. Les fragments de pensée, depuis le récif d'un homme seul, convaincu, en recherche constante de l'autre, en vue de l'aider. Autoflagellation constante, omniprésente, pour se dépasser, par là même, dépasser l'humanité. Je vous présente Friedrich Nietzsche, présenté encore une fois par le professeur Schmidblick. Oui, merci beaucoup, Johnny Tibet. Quel accueil triomphant. Mais je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Donc oui, comme vous avez dit, lecture. Il y a plusieurs fragments posthumes de Nietzsche. Par là même, dans cette émission, cette chronique dans laquelle vous m'avez invité, cher Johnny Tiefbeck, la barge russe, n'est-ce pas ? Eh bien, je vais d'abord présenter, dire quelques fragments, justement, des fragments, n'est-ce pas ? Posthumes, ça va de soi, de Friedrich Nietzsche, tome numéro 9, été 1882, printemps 1884. Donc voilà. Donc vous allez voir. Il n'y a pas vraiment. Il y a de tout pour faire un monde, n'est-ce pas ? Et pour faire un tome de Nietzsche, un ouvrage. Il y a un fond d'acquaintance, comme je dis, une particularité qui touche l'auteur à un événement précis de sa vie, au moment où il écrit ses ouvrages, n'est-ce pas ? Il y a beaucoup de Zarathoustra qui a été, il devait être en pleine écriture, Zarathoustra, ainsi parlait Zarathoustra, also sprach Zarathoustra, date de 1883, n'est-ce pas? Donc j'aurais pu vous demander, Johnny Tiefbeck, de passer un morceau, le morceau tant et bien connu de L'Odyssée de l'espace, de Kubrick, mais non, j'en ai un peu marre d'écouter. Ou bien il y a d'autres interprétations, mais non, on ne va pas faire ça. Vous avez trouvé autre chose, n'est-ce pas, Johnny ?
Oui, pas de problème.
Oui, très bien. Très, très bien. Donc, j'y vais. Je vous dis de but en blanc. Et la suite, il n'y a pas. Il y a un ordre chronologique dans ce que je vais vous dire, mais voilà. Donc, l'amour. Pour le surhomme, elle remède contre la pitié pour l'homme. N'est-ce pas ? Vous parlez d'amour en ce moment, cher Johnny Tiefbeck. Eh bien, je continue avec l'amour, avec Friedrich Nietzsche. L'amour pour... Alors, c'est le numéro 385 des fragments posthumes, comme je vous disais, il était 1882, de l'automne 9, n'est-ce pas, des fragments posthumes ? Oui. L'amour pour le surhomme, elle remède contre la pitié pour l'homme. L'humanité devrait rapidement périr de cette compassion. L'amour pour le surhomme est le remède contre la pitié pour l'homme. C'est-à-dire que le surhomme, dans ce cas présent, s'il est avec l'amour, il se rend compte que quand on aime, on n'a pas de pitié. Avoir de la pitié pour quelqu'un, c'est lui montrer qu'on ne l'aime pas. Voilà ce qu'il dit Nietzsche. Oh, tu fais mal, à ton genou. Oh, qu'est-ce que ça m'embête. Oh, c'est faux cul, c'est pas... La pitié, je suis d'accord. L'exemple que je vous donne, bien sûr, n'est pas dans tous les cas de figure, bien sûr. Mais très souvent, c'est ça, la pitié, tu me fais pitié, c'est ça. Mais il est vrai, je ne dis pas que vous m'avez dit tout à l'heure, vous avez pitié de ce qui s'est passé aux élections européennes, n'est-ce pas? Vous fait pitié d'être français. Oui, mais ça, je conviens. Oui, je comprends. Ça, je comprends. Il y a une certaine pitié. Pitié vers son propre pays. Oui, ça, je comprends. Bon, cela, c'est aussi c'est passager, parce que cette pitié, c'est un coup. Allons, enfants de la... Oui, très bien. Merci. Merci. Je vois que... Très bien. Oui, je comprends votre empathie, n'est-ce pas? Oui, pour votre pays. Donc, elle a péri et oublié. Voilà. Cher Johnny Zubek, pour continuer, évitez de vous attarder un peu trop sur vos citations. Oui, d'accord. Très bien. Alors voilà, ça, ce n'est pas de la pitié, non, pas du tout. Il me dit les choses, très bien, Johnny Zubek. Donc, l'humanité n'a pas de but. Ça va vous faire plaisir ce que j'ai trouvé. L'humanité n'a pas de but. Elle peut aussi se donner un but, non pas une fin, non pas conserver l'espèce, mais la dépasser. Ici est à prendre en compte l'eschatologie biblique, oui, qui est une création biblique, afin de rompre le cycle dont vous avez parlé dans les barges précédentes. Le dépassement sous-entend les cycles. Écoutez, je vais vous relire en vous interprétant. L'humanité n'a pas de but, donc pas de fin, pas d'eschatologie. L'humanité, pas les religions. Non, les religions ont une eschatologie. La religion chrétienne, tout le monde. Elle peut aussi se donner un but. Oui. Non pas une fin. Non, donc pas d'eschatologie. Non pas conserver l'espèce. Non. Mais la dépasser. D'où les cycles. Non pas dépasser l'espèce. Non pas conserver l'espèce, qui est le contraire de l'eschatologie. Non, c'est pas ça, la fin. La fin que d'ailleurs l'humanité ne cherche pas, c'est elle cherche à se dépasser, à continuer. C'est très important ce que je vous dis pour la suite, oui. Oui, c'est effectivement très très important. Ensuite, oui, bon, vous savez, alors un autre fragment, je vais vous lire. Regardez ailleurs, élevez-vous vers une lumière supérieure. Aucun esprit compatissant n'aimera le surhomme. Alors là, faut-il encore se poser des questions? Il était dans plein écrire de Zarathoustra, 1883. Regardez ailleurs, élevez-vous vers une lumière supérieure. L'homme de lumière. Ok. Et regardez, posez-vous des questions, voilà. Regardez ailleurs, posez-vous des questions, éclairez-vous, prenez de l'air. Posez-vous des questions, remettez en cause les fondements de la journée, d'un événement en particulier. Aucun esprit donc compatissant, donc qui peut avoir pitié, n'aimera le surhomme, car comme vous avez dit, où nous avons parlé de ça, le surhomme, c'est tout moment, c'est nous tous. Nous tous sommes des surhommes. Nous tous. Et même Nietzsche le dit. Et c'est fantastique ce recueil. J'en viens, je vais y venir. Même Nietzsche le dit. Nous sommes tous des surhommes. Élevez-vous vers une lumière supérieure. Posez-vous des questions, remettez-vous en cause, remettez en cause la situation, un événement. Aucun esprit compatissant n'aimera le surhomme, bien sûr. La personne qui ne se pose pas de questions, elle aura pitié. Eh bien, tant pis pour elle. Comprenez-vous ? Fragment posthume. Oui, très, très bien. Oui, donc là, Johnny T-Bag nous a fait écouter un morceau de sa, enfin, avec Helmut Schwartz, ça, qui s'appelle Fragment posthume, en T-pop. C'est remarquable. Donc, un riff qui n'est pas forcément fini, comme vous venez de m'expliquer, et par lequel vous rajoutez des riffs par-ci, par-là. C'est très bien. C'est, fragment posthume, donc. Des écrits qui viennent s'ajouter à d'autres, c'est très bien vu, oui, très très bon morceau. Oui. Et d'ailleurs, c'est marrant, vous parliez de ça, un créateur, encore je reprends Nietzsche, un créateur est celui qui forge de nouvelles valeurs. Vous êtes un créateur avec Helmut Schwartz, cher Johnny T-Bag. Donc, un créateur est celui qui forge de nouvelles valeurs, même pas l'artiste. C'est beau. Donc, hein, c'est le même genre de personnes qui ont pitié
Ça va être un artiste. Oui, oui. Il refait très bien ce que font les autres. Oui, mais c'est ça, mais il ne crée rien. Oui. Oui, ça revient un peu à la polémique actuelle. Enfin, bon. Il n'est pas bon de faire quelque chose de différent, non, malheureusement. Je suis carrément d'accord avec vous, professeur Schmulli. Oui, je vous prie. Oui. Donc là, j'avais noté génial. Alors, je vous lis. C'est le numéro 100, donc fragment numéro 100. Savoir avec finesse ce qui nous fait mal et savoir combien facilement autrui nous blesse. En quelque sorte, déterminer à l'avance ses pensées afin qu'il n'emprunte pas des voies qui nous seraient douloureuses. Voilà l'essentiel chez nombre de ceux qui sont aimables. Voilà l'essentiel chez nombre de ceux qui sont aimables, comme je vous disais. Ils procurent de la joie et font en sorte que cette joie inonde les autres, car ils redoutent beaucoup la douleur. On appelle ça délicatesse. Celui dont la nature est exceptionnellement dure n'éprouve pas la nécessité de se mettre ainsi à la place de l'autre, donc pas d'empathie, et il lui fait souvent mal. Il ne présuppose pas cette grande susceptibilité. Là, nous avons le trait de quelqu'un qui va être dur ne va pas prendre la peine de se mettre à la place de l'autre pour éviter de lui faire mal. L'amour. Il n'aura pas pas extraordinairement d'amour pour son entourage, pour lui-même. Même. Le fait d'être empathique amène un certain amour, même de l'amour à l'autre et à soi. Et celui qui ignore tout ceci, qui est dur, qui va dire des choses qui vont blesser des personnes, ben lui, nous pourrions avoir de la pitié pour lui, mais sera le genre de personne à dire qu'il a pitié. Alors que s'il n'a pas d'empathie, il n'a pas de pitié.
Après les grands tubes de Gustave Beaupré, Le Malheur, Le Bonheur, qui était top 1 sur la charts list, et c'était quoi son deuxième titre? Il a fait un tube aussi. Malheur, c'est le bonheur. C'est pas mal. Mais il en a fait un nouveau qui s'appelle... Malheur, c'est le meilleur. Bon, il est moins drôle comme ça, mais bon, c'était la préparation.
Je ne connais pas ce chanteur Gustave Beaupré. Il a l'air assez performant. Ça.
Ouais, oui.
Oui. Oui, c'est pas trop mon style, non. Mais bon, apparemment, il a vendu beaucoup de titres. Oui. Ouais, je pense qu'à la radio, on ne dit pas de bêtises. Hein. Je pense que vous avez un bon travail. Oui, vous avez donc déniché les bons créateurs, bons artistes, comme nous disions, n'est-ce pas?
Exactement.
Oui, je l'ai dit bec, oui. Donc, suite à ce Gustave Beaupré, magnifique, je vais continuer avec ce surhomme qui est en chacun de nous. Et Nietzsche était bien conscient qu'il était en chacun de nous, ce surhomme, et qu'il suffisait de se poser des questions. Oui. Se remettre en cause, oui. Vous l'avez très bien dit. Vous nous en avons parlé dans les barges précédentes, cher Johnny.
Oui, je m'en rappelle très bien.
Oui, moi aussi, je m'en rappelle bien. Comment pourrais-je oublier? Là, la troisième partie est le dépassement de soi de Zarathoustra comme modèle du dépassement de soi de l'humanité. Au profit du surhomme. Je vais vous le relire, c'est fantastique qu'il écrive ça. Il était conscient que le surhomme de Nietzsche, des gens qui ne connaissent pas Nietzsche, disent « Ah, oh, le surhomme de Nietzsche, ah ouais, nanana. Mais oui, mais pauvre type, toi aussi, t'es un surhomme. Quel con, celui-là. Mais non, mais c'est facile. Hein? Si, mais c'est tellement facile de se sous-estimer pour ensuite plomber ses capacités, ou plomber l'humanité, devrais-je dire. C'est tellement facile de ne pas se poser la question, de fainéanter pour ne pas se poser de questions. Oui, facile. Je relis. Le troisième parti est le dépassement de soi de Zarathoustra. Parce qu'il est en pleine écriture de Zarathoustra, n'est-ce pas, en 1883. Comme modèle du dépassement de soi de l'humanité. Alors, je redis encore. Le dépassement de soi de Zarathoustra. Comme modèle de dépassement de soi de l'humanité. Car Zarathoustra, c'est nous. Nous sommes capables d'être Zarathoustra. Bien sûr. Oui. Modèle du dépassement de soi. Modèle du dépassement de soi de l'humanité. Au profit du surhomme. Le surhomme est de Zarathoustra. Et un modèle, mais une cachette, n'est-ce pas? Un mystère, le mystère qui est enfoui au fond de nous. Ah, oh, quel génie, ce Friedrich Nietzsche. Oh, incroyable. Et pour continuer ça, et pour vraiment accentuer ce que je vous dis, quand l'officier commande présenter armes, les soldats le font. Oui, c'est leur boulot, en même temps. Ils commandent et maintenant ils veulent. Ils veulent montrer leur arme. Oui, parce qu'on leur demande. Mais ils le veulent. Car le vouloir, c'est le pouvoir. Oui. En réalité, ce qu'ils font diffère d'un homme à l'autre. Comment, si on entend par là, c'est comment en viennent-ils à vouloir montrer leur arme? Il y a tout un cheminement dans leur cervelle. Mais là, à ce moment-là, les soldats se posent des questions, peut-être, un peu plus. Friedrich Nietzsche. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais heureusement, je dirais qu'ils se posent des questions. Mais pour des organes grossiers, cela semble la même chose. C'est-à-dire, pour ceux qui ne se posent pas de questions, ça semble être la même chose. De voir ce cheminement qui nous demande de présenter armes, enfin, qui demande aux soldats. Mais c'est. Qui agit selon des fins, les verra souvent s'accomplir. C'est-à-dire qu'il voit grossièrement et ne sait pas ce qui arrive vraiment. Il présente son arme sans se poser de questions. Alors qu'il faut se poser des questions pour être un surhomme. Mais est-ce que les soldats sont conditionnés? Oui, ils sont conditionnés. Pour être des surhommes? Peut-être pas. S'ils étaient des surhommes, il n'y aurait peut-être pas d'armée. Peut-être pas. Que notre image imparfaite de ce qui arrive corresponde au monde. De ce qui arrive. Conditionnement, contrôle, consommation. Coïncide avec lui. Voilà le credo de ceux qui enseignent les fins. Oui, voilà, les fins. Les fins eschatologiques. Voilà. Il faut faire ce qu'on dit. Voilà. Nous sommes en 1882-1884. Friedrich Nietzsche. Ne voyez-vous pas ici quelque chose que moi je ne peux pas voir? Dites-moi, allez-y, posez-vous des questions, dites-moi ce que vous voyez que moi je ne vois pas. Allez-y. No!
Donc nous avons pu écouter Weak in Your Light, donc faible dans ta lumière, du groupe Nation of Language. Professeur Schmilbli, vraiment, est-ce que vous m'avez mis une claque là. Oui, je n'en doute pas. Je comprends. Je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi cette remise en cause que propose une Freinich. Mais est-ce qu'à l'époque, on se posait des questions? Est-ce que Zarathustra a emmené des personnes à se poser des questions? Oui, forcément. Je pense que oui. Mais juste après avoir fini de lire, ou en le lisant, ce livre, pour qu'après ce soit fini, on ne se pose plus de questions. Voilà. Ceci est une question. Oh, c'est bien. Oh, il se pose des questions. Oh, ça m'emmène à me poser des questions. Oui. Oh, j'ai fini. C'était bien. Oui. Je vais prêter à mon voisin. Comme ça, je n'aurai plus à y penser. J'aurai plus à me poser de questions. Oui. C'est une possibilité humaine. Oui, oui. J'en conviens. Oui, très bien. Oui, oui. Je suis à Québec. Oui. Oui, oui. Donc là, vous me disiez, vous aviez un autre fragment posthume. Oui, oui, vous savez, il y en a beaucoup, mais j'en ai un autre. C'est fragment posthume numéro 14. Il y a des fragments posthumes sur tous ces ouvrages. Il y a Guy Savoie. Je n'en ai aucun. C'est des emprunts que je fais, oui. Mais ce sont des. C'est l'absolu. Frédéric Nietzsche est bien sûr dans ses ouvrages, mais dans les fragments posthumes. Encore plus. Ses correspondances aussi. Oui. Oui, c'est fantastique. 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 Oui. Bon, alors voilà. Je vais continuer donc cette fois avec Fragment posthume numéro 14, début 1888, début janvier 1889. C'est pas Frédéric Nietzsche, les fragments posthumes. Donc là, c'est déjà beaucoup plus complet. Ce ne sont pas juste des petites pensées passagères qu'il peut écrire sur. Des fragments qui constituent des fragments. Là, ce sont des fragments, mais qui sont de véritables textes, n'est-ce pas ? L'histoire, là, je cite Nietzsche dans un fragment posthume. L'histoire de la philosophie est une rage secrète contre les conditions premières de la vie. C'est très intéressant. La philosophie est donc une rage secrète contre les conditions premières de la vie, contre les sentiments de valeur de la vie. Vous, Johnny Tibet, je crois que c'est carrément ça. Ah bah oui, moi je suis en plein dedans. La philosophie, ça me permet justement de relativiser et en même temps de pas de me moquer, mais de critiquer objectivement et à la fois subjectivement, parce que c'est de la philosophie, l'actualité, le quotidien. Oui, j'ai bien vu. J'ai bien vu. J'ai entendu, du moins. C'est une rage secrète contre les conditions premières de la vie, contre les sentiments de valeur de la vie, contre le parti pris en faveur de la vie. Les philosophes n'ont jamais hésité à approuver un monde, à condition qu'il contraste avec ce monde-ci, qu'il fournisse un moyen commode de dire du mal de ce monde-ci. Oui, parce que, chaque philosophe a un monde, n'est-ce pas ? Et ce monde, il l'approuve, c'est sa construction. Les infrastructures de sa personnalité, du surhomme, comme le nom de Barjus, oui. C'est des infrastructures. Et bien sûr, le monde des rencontres, des réalités avec un grand R, comme vous dites très bien, Jenny Beck, eh bien, ce monde-ci, il est là pour qu'on s'en moque, pour nous aider à constituer un monde qui dépasse, qui ne dépasse pas, mais. Dans lequel nous puissions être préservés, c'est pas ? Oui, le jardin secret. Oui, j'ai écouté vos émissions, vous savez. Oui, j'aime beaucoup. Qui contrastent, qu'ils fournissent un moyen commode de dire du mal de ce monde-ci, comme je viens de vous dire. Ce fut jusqu'ici la grande école de la calomnie, c'est pas ? Dit-il écrit-il. Et elle en a tant imposé qu'aujourd'hui encore, notre silence, qui se donne pour l'avocate de la vie, admet la position fondamentale de la calomnie et traite ce monde-ci comme simple apparence. Le monde des apparences, la réalité avec un R, ce monde des rencontres. Oui, mais dans ce monde des rencontres, chacun a un monde intérieur, des infrastructures, de sa
Sur surhomme. Ah non, je dis surhomme, c'est surentité, bien sûr. C'est surhomme, ça va pour les femmes. Oui, je oui. Même si Nietzsche était pas trop les femmes, mais après je vous dis ça, je sais bien que les hommes et les femmes sont différents. Cette entité du surhomme, ces facteurs qui font le surhomme, sont différents, bien sûr, de celui qui fait la surfemme. Car il est certain, comme cette nouvelle de Tchekhov dans laquelle vous avez parlé dans la barre juste précédente, l'amour. On voit bien les propriétés les propres dans lesquelles sont incarcérés l'homme et la femme. Oui, ils sont incarcérés. Donc ce qui va pouvoir faire la surfemme, ça ne va pas être ce qui va faire le surhomme. Et ça ne va pas être les mêmes objets. La surfemme, ça n'existe pas. C'est un autre mot, la surfemme. C'est autre chose qui est aussi puissant que ce que veut dire surhomme. Vous comprenez? C'est un dépassement de soi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je suis convaincu. Je sais, dans vos écrits, je dis, mec, vous complimentez énormément le facteur de la féminité. D'ailleurs, les Vénus des préhistoriques, oui, ce sont la noblesse même. Je ne reviens pas là-dessus. Non. Et tout ça est au-delà, mais. Mes pensées, non, ce n'est pas du tout ça. Non, je vous le dis. Tout simplement, je vous le dis. Et je continue. Alors, ce fut jusqu'ici la grande école. Et Camille, la traite est ici comme apparence. Cette chaîne de causes, comme simplement phénoménale, qu'est-ce qu'ici est si fort? Tu vas haïr. Qu'est-ce qu'ici haïr si fort plutôt. Est-ce une haine de chacun, un égoïsme, comme dit souvent Friedrich Nietzsche, comme la philosophie. Est-ce que c'est ça qui fait haïr, qui emmène cette haine, pardon, ou est-ce que c'est au contraire cette réalité qui n'accepte pas les mondes de chacun? Non, beaucoup plus loin, enfin, possible, octobre-novembre 1888. L'ennui ne fait pas partie, me semble-t-il, des souffrances de ceux qui souffrent. Non, je suis d'accord avec ça. Vraiment. L'ennui ne fait pas partie, me semble-t-il, des souffrances de ceux qui souffrent. L'ennui, car je crois à vous, cher Jean-Yves, je prends appui sur vous. Je vois que vous souffrez avec vos maux de tête. Oui. Oui, vous êtes épileptique, oui. Je pense que vous ne vous ennuyez pas. Oui, je vois dans vos yeux, oui. Oui, je m'arrête ici. Mais, l'ennui ne fait pas partie, me semble-t-il, dit Friedrich Nietzsche, des souffrances de ceux qui souffrent. Du moins, n'en ai-je gardé aucun souvenir, dit Friedrich Nietzsche, qui lui souffrait d'abominables maux de tête. Inversement, la mauvaise époque de ma vie me fut rendue riche par un certain talent inventif nouveau, l'art des nuances, dit Friedrich Nietzsche. Je comprenais un raffinement en général intellectuel. Par les malheurs, on comprend mieux les choses. Une empathie va se créer. Ah, peut-être à penser que les. Comme vous dites, comme je disais tout à l'heure, la dureté des personnes qui ne sont pas empathiques, puisque ces gens ne souffrent pas, n'ont jamais souffert, et ne souffriront peut-être jamais, je ne leur souhaite pas. C'est pas méchant. Je parle de souffrance mentale et physique, car la souffrance physique emmène énormément d'empathie, ainsi que souffrance mentale. Mais la souffrance mentale, je pense qu'on a moins de temps d'y penser. N'est-ce pas, Jean-Yves Sivek? Vous avez mal de tête? Oui. Ensuite, pour continuer, le fortuit quotidien est amusé du crible, du sublime, et ne se ressemble plus. Je ne sais pas pourquoi. L'effervescence d'un moment. Oui. Donc, plus loin cette fois.
1988. Donc, j'y vais. J'apporte la guerre, une guerre coupant droit au milieu de tous les absurdes hasards que sont peuple, classe, race, métier, éducation, culture. Une guerre comme entre montée et déclin, entre vouloir vivre et désir de se venger de la vie, entre sincérité et sournoise dissimulation. Si toutes les classes supérieures prennent parti pour le mensonge, elles ne l'ont pas librement choisi. Elles ne peuvent faire autrement. On n'est pas libre de tenir à distance les mauvais instincts. Il n'y a pas de cas qui montre mieux à quel point la notion de libre arbitre a peu de sens. On dit oui à ce qu'on est et non à ce qu'on n'est pas. Et là, voyez-vous, moi ça m'a rappelé quelque chose que j'avais lu une fois sur le capitalisme. Le capitalisme ne serait pas là, nous ne pourrions pas vivre. Il y aurait bien moins de... Il est évident que pour le commerçant, même artisan, s'il faut... Même industriel, c'est pas en achetant un produit 10 euros, en le faisant travailler, en employant des personnes, et en leur vendant... 9 euros, on va gagner de l'argent. Ni 10,50 euros. Bon, là, il y a un peu d'argent, bien sûr. Mais ce n'est pas le but. Cette personne doit faire vivre des personnes. C'est ça, le capitalisme. Oui. Oui. Oui, ça dépend de quoi nous parlons, bien sûr. Mais bon, le capitalisme, c'est ça. C'est acheter un produit pour le rendre plus cher. Oui. Voilà. Je ne parle pas du traitement. Non, ça c'est un autre sujet, je ne veux pas dedans, c'est pas possible. Et bien là, c'est la même chose. Les classes supérieures prennent parti pour le mensonge. Ah oui. Ça fait partie du capitalisme aussi, du libéralisme, oui, oui. Communisme même, hein. Oui, oui, bien sûr. C'est extrême, oui, c'est ça. Extrémisme même, oui, c'est ça. Elles ne peuvent faire autrement, on n'est pas libre de tenir à distance les mauvais instincts. Mais après avoir traité pendant 2 millénaires l'humanité à coups d'absurdités physiologiques, il faut bien que la dégénérescence et la confusion des instincts aient pris le dessus. La dégénérescence et la confusion des instincts. Car on a, pendant 2 millénaires, nous avons voulu nous surpasser notre instinct. Le prendre sa place, réfléchir à sa place. Et qui fait que maintenant, les personnes ne suivent plus l'instinct. Ils ne savent même plus que ça existe. Non, ils ne s'écoutent plus. Ils ne se posent plus de questions. Ils sont perdus. Nous sommes au 19e siècle, en 1888. Vous vous en rendez compte, Genetic Beck? Le 19e siècle est très riche pour ça, est très intéressant. Mais c'était trop tard déjà. La machine était en route. Et aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pareil, l'intuition, vous parliez du complot, complotisme, et ça a toujours été, mais oui, donc ce n'est pas un complot, vu que ça a toujours existé. Et bien, c'est la même chose pour les humains. Les humains se sont toujours refusés à être des surhommes, peut-être, pour ne pas dépasser, ne pas se faire remarquer, peut-être en France, plus qu'ailleurs, je l'ignore, je ne pense pas, j'ai vu qu'aux États-Unis, ce n'est pas la même chose. Oui, oui, bien sûr. Oui. Eh bien, cher professeur Schmidli, je vous remercie beaucoup. Oui. Merci à vous.
Ça attend que ça bascule sur le rocking chair, le blues de la vache. C'est le blues. Et à 14h, les hommes m'écoutent et ma paix s'en route sur la vache russe. Les jours, c'est l'accent. Wa-an-o-o-wan.